Aujourd'hui, donc, nous terminons sur la communauté, le nous, avec la poursuite de Rousseau, et puis nous conclurons par un retour à Emmanuel Lévinas, qui ouvre une perspective, me semble-t-il, pour dépasser les contradictions qu'on a déjà pointées, et notamment chez Rousseau, qui sont complexes, qui sont en tout cas une tension considérable entre l'instinct de soi, l'amour de soi, sur lequel on va revenir d'ailleurs, et l'instinct de pitié, le désir de société, le désir d'autrui. On terminera donc là-dessus. Donc là, terminons aujourd'hui Rousseau. Je vais reprendre quelques éléments. Le démon de l'appartenance, du coup, juste avant, j'explicite le titre. Paul Audif établit un lien, qui est un lien évident, entre identité et appartenance. C'est-à-dire que l'identité sociale collective suppose l'appartenance. Ce sont deux dimensions du même processus. On ne se sent pas une identité commune si on ne se sent pas appartenir à une même collectivité, si on n'établit pas une équation entre soi et un groupe quel qu'il soit. C'est ce qu'on appelle les groupes d'appartenance en sociologie ou psychosociologie. Donc, le problème de l'appartenance qui fonde l'identité, c'est que c'est un sentiment. On ne se sent un lien d'appartenance qu'à partir de un ou deux ou trois critères, attributs qu'on estime partagés avec les autres. Donc forcément, ceux dont on estime qu'ils n'ont pas ces mêmes critères d'appartenance, ils sont exclus. Donc ça, on le retrouve dans tous les groupes qui se constituent comme identité et qui sont tous fondés sur un sentiment d'appartenance fort. Donc c'est en ce sens-là que Paul Audy, effectivement, a nommé son livre « Le démon d'appartenance ». Parce qu'il y a quelque chose de démoniaque ou de néfaste et un impasse qui est celle que j'évoquais avant. Et ce qu'avait réussi la Révolution française et les Lumières dans le sillage de Rousseau, c'est précisément de tenter de définir un nous qui n'était pas lié à des qualités partielles ou parcellaires partagées par les individus, qui n'était pas lié à des attributs limités partagés par un certain nombre d'individus. Par exemple, traditionnellement, et c'est un débat qui est aujourd'hui ressurgi à plein, il ne faut pas s'étonner du coup que l'immigration redevienne un sujet central, ce qui n'était pas le cas encore il y a 20 ans. L'argument qui est mis en avant, c'est un argument économique. Je crois que le problème n'est pas du tout là. C'est qu'on aurait pu l'argent. Le problème, il est que le débat sur l'immigration repose la question justement de l'identité et de l'appartenance, et le symptôme de l'épuisement de la réponse que les Lumières avaient apportée dans le sillage de Rousseau. Alors, c'est quoi? Depuis le Moyen-Âge, l'être ensemble se constituait sur des communautés qui étaient liées à des critères donc partiels. C'était quoi, par exemple? C'était le lien du sang, le lien familial au sens large. Et on sait que toutes les sociétés traditionnelles, en fond, constituent des ensembles qui ne sont que des familles élargies. Le seul critère, c'est on a le même sang. Ce critère, effectivement, s'est élargi à son point d'extension maximale avec le nazisme et la notion de race. Les Ariens contre les non-Ariens, les Juifs, les Roms. Pourquoi les Roms, d'ailleurs, c'est très clair, c'est qu'il y a toujours des mythologies qui sont constituées autour de ces peuples qui les font venir d'ailleurs. Un autre attribut commun qui a pu être aussi mis en avant dans les communautés, dans les sociétés traditionnellement, c'était l'appartenance à un même terroir, l'origine. Alors, il y a des traces, par exemple, dans la culture rurale, telle qu'elle subsiste maintenant à l'état de traces de survivance. On retrouve bien des réflexes de ce type-là. L'opposition que les anthropologues ont bien analysée, d'ailleurs, ou les ethnologues du rural, entre celui qui est d'ici et celui qui est d'ailleurs. Celui qui est ailleurs pouvant être, d'ailleurs, celui qui est né dans le village à côté. Enfin, j'avais participé à des études ethnologiques de village, c'était très drôle. Des vieilles femmes, mais il n'y a pas longtemps, enfin, il y a 20 ans, qui expliquaient qu'ils s'étaient mariés avec quelqu'un du village où elles vivaient maintenant, du fait de leur mariage, mais qui venait du village à côté et qui se considérait elle-même toujours comme une étrangère, en disant « Ah ben moi, j'ai pas d'avis sur la question. » C'était des questions que je posais sur des aspects de la vie du village, qui n'étaient pas des questions sulfureuses, qui n'avaient pas de graves problèmes, et qui disait toujours « Ah ben moi, je peux rien dire, vous comprenez, moi je suis étrangère. » Et en fait, quand on creusait, je leur faisais expliciter pourquoi elles disaient ça, parce que moi j'avais le sentiment au départ qu'elles étaient vraiment d'ici, parce qu'elles étaient ici depuis 50 ans, 60 ans. Et en fait, elles expliquaient qu'elles étaient nées dans un village à 5-10 kilomètres. Voilà, ça c'était les quelques attributs partagés qui fondaient une société commune. Ce qu'a introduit la Révolution française avec Rousseau, c'est un bouleversement absolument déterminant. C'est que on va fonder une société, un être ensemble, sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'attributs ou de qualités ontologiques originelles d'un certain nombre d'individus, mais sur une démarche volontaire des individus, c'est-à-dire le contrat. C'est-à-dire une démarche qui consiste, qui que nous sommes, à partager des valeurs communes. C'est la notion de valeur partagée à travers le serment, si on parle de la Révolution française, ou à travers le contrat, fondamentalement, que va se constituer une communauté, une société commune. C'est ce qu'a fondé la notion de république, au fond. L'État-nation, la république. C'est pour ça qu'il y a un glissement complet dont on ne s'est pas rendu compte et que Milner n'évoque pas comme cela, mais on peut lire entre les lignes que c'est de ça qu'il s'agit, sur la notion nationale. C'est-à-dire que depuis la Révolution française, l'idée de la nation était une idée généreuse, universalisante. J'aime pas utiliser, on a abordé de trop le terme universel, dont on avait vu les problèmes qu'il posait, mais une idée ouverte, généreuse, requérant un partage volontaire de valeurs. La question nationale tout au long du 19e est restée fondée là-dessus. Alors, avec les impasses que ça peut amener, le problème c'est que c'est au nom de valeurs partagées des Lumières que Napoléon a voulu conquérir les pays voisins qui lui apparaissaient comme obscurantistes. C'est pour ça que des gens comme Hegel, qui visait l'État universel, le philosophe Hegel, ont été des inconditionnels de Napoléon Bonaparte. Hegel a fait l'éloge de Bonaparte, enfin de Napoléon, parce que pour lui, il incarnait justement cette visée, cette conception d'une société ouverte et accueillant possiblement tous, fondant un État universel. Ça s'est fait, ouais, ce que l'on sait. Mais aujourd'hui, on a tendance à simplifier les choses toujours, et ça n'aide pas à voir clair en disant Napoléon égale Hitler égale Staline. Cette double équation est complètement fausse. Et dire ça, c'est pas pour autant justifier chacun des trois, ou deux des trois. C'est que ça n'a rien à voir. Après, ce qui se passe, c'est que au XXe siècle, et surtout maintenant depuis la guerre, au fond, les revendications, les mouvements nationalitaires n'ont plus aucun rapport avec ce qui les a fondés. En fait, c'est un homonyme et pas un synonyme. C'est un homonyme, c'est-à-dire que phonétiquement c'est le même mot, mais c'est pas un synonyme parce que ça n'a plus du tout le même sens. Ça n'a plus du tout le même sens au sens où aujourd'hui, les mouvements dits nationaux, nationalistes, ne sont que des expressions de blocs identitaires qui reposent sur les critères des sociétés anciennes, d'avant la Révolution, fondamentalement. Et on l'a bien vu, les Serbes contre les Croates, Croates contre les Bosniaques, Kosovars, qui se revendiquent tous d'un fait national. Au fond, sont tous sur de l'identitaire, au sens antérieur aux Lumières. C'est pour ça d'ailleurs que la Révolution française parle moins de nation, même si ça va se traduire dans le cadre de l'État-nation, que de république. C'est-à-dire que le maître mot, c'est république. Et république, là on retrouve le latin qui a une autre connotation que nation, c'est res publica, c'est la chose commune, le bien commun. Et quel est le bien commun qui fonde notre être ensemble? C'est des valeurs partagées. Donc les valeurs partagées, c'est notamment liberté, égalité, fraternité. C'est devenu aujourd'hui un slogan vide de sens qu'on lit sur les frontons des mairies. Le sens est largement perdu, ou la force de ce que ça veut dire. Mais c'est ça qui est en jeu. Et le fait qu'aujourd'hui ça soit vide de sens n'est que le symptôme du fait que tout ce montage basé sur ce contrat c'est cette démarche volontaire des individus, quoi qu'ils soient, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs caractéristiques particulières. C'est pour ça que tout le mouvement de Rousseau et toutes les lois républicaines vont bannir la prise en compte des particularités, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire que les revendications nationales sont basées sur des particularités, des particularismes. Et c'est toute la différence, parce que le particularisme élimine. Alors, le problème, c'est que la faiblesse de cela, c'est que l'individu concret fait d'une histoire est nécessairement particulier. Et que, du coup, il y a eu un effet niveleur qui n'a jamais bien été résolu. D'où le retour en force au fur et à mesure où le cadre de l'État Léviathan s'épuisait, le retour en force des revendications fondées sur les particularités, les particularismes. Alors, n'oublions pas cela, c'est que la Révolution française, c'est-à-dire les Lumières, on pourrait le dire aussi d'une certaine manière de la Révolution américaine, enfin, sont fondées sur un déplacement complet de la perspective antérieure, qui est démarche d'adhésion volontaire à des valeurs que l'on souhaite partager. Et le contrat, ça va être avant tout cela. D'où le corollaire indispensable que Rousseau avait bien vu et que la République aura vite perçu comme une nécessité de l'éducation. De l'éducation qui, au fond, est pensée, les clercs de la République, est pensée comme le travail sur les individus permettant de les amener à découvrir le sens et la portée des valeurs partagées qui peuvent fonder ce bien commun. Et on voit aujourd'hui que ce qui fondamentalement fait que l'éducation nationale est en crise, c'est que c'est le corollaire de l'épuisement de l'institution contractuelle, c'est que ce sens même de l'éducation nationale est perdu totalement de vue. J'en veux pour preuve que ce qui correspondait à ça, qui était la base de ce que dit Rousseau, l'instruction civique, est devenue une discipline secondaire et totalement ringardisée, et une discipline barbante secondaire à la marge. Alors que fondamentalement, l'instruction civique, c'était le projet même et la raison même de l'éducation nationale. Et Rousseau, je vous le rappelle, dans Contrat social, évoque un mot qui est magnifique. Au fond, on réfléchit bien à sa portée, et il met au centre la figure de l'instituteur. D'ailleurs, c'est pas hasard si aujourd'hui, on ne nomme plus les instituteurs les instituteurs. Il n'y en a plus d'instituteurs. Professeurs des écoles, maintenant. L'instituteur a disparu, le terme a disparu. Et le statut même, y compris à travers les écoles normales, c'est autant de Jospin. Ce beau mot d'instituteur, Saul l'utilise très précisément, le législateur, donc celui qui est un acteur du contrat, qui contribue à la production des cadres contractuels, il doit être l'instituteur du peuple, expression de Rousseau. Les deux fonctions sont quasiment synonymes chez Rousseau. Le fondateur, le créateur de l'institution doit instituer le peuple, instituer les individus à travers l'instruction. Mais l'instruction qui est d'abord et avant tout le travail de conscience qui amène à découvrir les valeurs partagées. C'est avant tout, fondamentalement, l'instruction est instruction civique. Alors, non plus au sens de la discipline marginale à quoi ça a été réduit aujourd'hui, mais au sens de amener les individus humains à s'élever à un bien commun. Fondamentalement, c'est cela la démarche. Et pourquoi? Parce que Rousseau l'explique très bien. Il dit, la foule, si elle est sous l'emprise des passions, est aveugle. Donc, si la foule est aveugle sous l'emprise des passions, elle ne peut pas adhérer, partager, les valeurs universelles communes. La passion divise, sépare, particularise. Donc, pour éviter que la foule reste un gros animal aveugle, qui est sous l'emprise des passions et qui a des mouvements désordonnés, il faut instruire, instituer, développer la conscience des valeurs communes, du bien commun, des petits individus. Et c'est en sens-là que la foule devient peuple dans le discours des Lumières et de la République. Et là aussi, on voit bien comment, que ce soit le nazisme, par exemple, ou autre, les mouvements qui ont voulu démolir ces cadres ont joué uniquement sur le ressort qui rend la foule aveugle, c'est-à-dire les passions. Les grandes mises en scène spectaculaires orchestrées par Goebbels de nazisme, c'était précisément ça. On retrouve ça partout, sans arrêt. Alors, ceci m'amène directement à revenir à l'instinct de pitié et ce que nous avions abordé l'autre fois, parce que le lien est direct. Premier point essentiel, Rousseau, je le rappelle rapidement, part d'un constat a priori similaire à Hobbes. Le constat de Hobbes, c'était que la guerre civile, c'est le point de départ, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, l'homme est un loup pour l'homme. Rousseau, d'une certaine manière, part de la même idée, enfin du même constat, qui est qu'au fond, dans la société, il y a fondamentalement une injustice sociale qui est que les puissants sous tous les registres, hein, ils déclinent les puissants non seulement en termes de richesse économique, mais aussi de statut social, politique ou autre, les puissants exercent une violence permanente sur les plus faibles, qui se traduit par le fait qu'au départ, il y a une oppression des faibles. Alors, Rousseau n'explique pas cela, cet état social qui le révolte, par une loi naturelle. Il explique cela par le fait que c'est la société elle-même qui a généré cet état de fait. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que pour Rousseau, c'est les hommes qui sont les seuls à l'origine de ce mal social. Ce n'est ni la faute de Dieu, ni l'effet d'un péché originel. Avec Rousseau, on connaît la fin de la théodicée. La théodicée, c'est que l'état social est régi par une loi divine, une justice divine. Théodicée en grec, ça veut dire littéralement justice divine. Mais que ça n'incombe qu'à la faute des hommes eux-mêmes. Donc l'inégalité et l'oppression n'ont pas d'origine naturelle ni divine, mais bien une origine dans la société des hommes. Donc, conséquence de cela pour Rousseau, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire, c'est comme ça, c'est la nature humaine, on ne peut pas faire autrement. Les forts dominent les faibles, ça a toujours été... Rousseau refuse cet axiome. Alors, il repart de la nature humaine, et c'est beaucoup plus complexe, je le rappelle, que ce à quoi on a réduit Rousseau, le mythe du bon sauvage. Rousseau ne dit pas ça. Il complexifie et il descend la perspective de Hobbes en la complexifiant de la façon suivante. Rousseau dit clairement que l'homme possède en lui comme inné, mais aussi acquis. Ça va être là la subtilité et la complexité de sa pensée à ses heures. Deux ressorts, deux instincts, si vous voulez, il utilise parfois le mot instinct, qui est l'instinct de soi, l'amour de soi, qui est au fond l'instinct de conservation. L'individu humain cherche à pérenniser sa vie. Ça correspond un peu à la catégorie de feu, la pulsion de vie. Si ce n'est que Rousseau ne théorise pas, ne reconnaît pas qu'il y aurait une pulsion de mort, contrairement à ce que développe Freud. Donc, on est sur le terrain de Hobbes, c'est-à-dire que cet instinct de soi, cet amour de soi, Rousseau reconnaît qu'il est bon, qu'il est indispensable, qu'il est nécessaire, qu'il permet l'épanchement du vivant. Il ne le rejette pas. Bien au contraire, c'est lié à l'état naturel, donc de toute manière, rappelez-vous, pour Rousseau comme pour Hobbes, l'état naturel est en dehors de tout plan de morale ou d'éthique. Donc c'est un plan qui ne se prête pas à des jugements moraux. Porter un jugement moral sur l'état naturel qui précède toute éthique, pour Hobbes comme Rousseau, c'est vain, c'est stupide, c'est une erreur, une contre-vérité. On ne peut pas porter un jugement moral sur un état naturel. C'est un fait, le régime des valeurs n'entre pas en ligne de compte. Donc, cet amour de soi, c'est ce qui va développer aussi le jeu de l'intérêt. C'est-à-dire, fondamentalement, il faut retrouver, je l'avais déjà évoqué, là je fais des rappels, l'étymologie latine du mot intérêt ou intéressé, être intéressé, c'est inter et c'est, E2SE. Intéressé, c'est fondamentalement participer de l'être, c'est-à-dire viser à être. Donc, se déploie à partir de là les intérêts. Alors, pour Hobbes, il n'existe que ça. Mais Rousseau, comme Hobbes, constate, partage ce même constat, que la conséquence de l'amour de soi de l'individu intéressé, qui cherche à se perpétuer, la conséquence de cela, c'est forcément la guerre des intérêts. Les injustices, les inégalités, les oppressions, la mort de l'autre. Mais pour Rousseau, à l'état naturel, l'homme détient un second instinct, qui est donc ce qu'il appelle, ça varie, l'instinct de pitié. L'instinct de pitié ou le désir de société, le désir d'autrui, on pourrait dire l'amour d'autrui. Mais restons-en à la notion de pitié. La notion de pitié pour Rousseau est bien liée à l'état naturel, à la nature humaine. Et pour Rousseau, ce principe est essentiel parce que c'est ce qui fonde la possibilité d'une coexistence pacifiée et d'une société. Au sens où l'instinct de pitié vient modérer, tempérer, contenir l'instinct de soi, l'amour de soi. Donc on voit que l'enjeu est central. Est-ce que ça existe vraiment ou pas? Alors, on a souvent pointé une contradiction qu'on a dite insoluble chez Rousseau, qui pour moi est beaucoup plus de l'ordre d'une complexité et d'une subtilité de sa pensée. La contradiction, c'est que Rousseau, à différents moments, semble dire ou dit, pour contrer l'amour de soi et le déchaînement de l'intérêt de l'individu, il faut que l'institution, la société, amène l'individu à la raison, l'éduque. On retrouve ça, donc c'est ce que j'ai dit avant, donc dans le contrat social, mais encore plus dans l'Émile. Et c'est pas hasard si l'Émile paraît la même année que le contrat social. L'un est le pendant de l'autre, c'est-à-dire le traité d'éducation est le pendant du traité politique, qui est le contrat social. Donc là, on se dit, mais alors, si le penchant vers l'autre relève de l'éducation, c'est de l'acquis, donc c'est pas de l'inné, donc ça n'existe pas dans l'état naturel. Donc Rousseau se contredit. Ça n'existe pas préalablement, c'est une construction sociale, donc ça serait fragile. C'est un artifice, au sens où le mot artifice, qui est utilisé à la Renaissance, c'est un mot latin, artifex, et qui désigne l'artiste. L'artifice, c'est une construction humaine, par opposition au naturel. Donc là, on croit ne pas s'en sortir, on croit que Rousseau, effectivement, dit une chose et son contraire, se plante, et que du coup, ça affaiblit considérablement l'hypothèse que la société peut s'ancrer solidement sur la pitié. Parce que le naturel revient au grand galop, comme on dit, et le naturel, c'est pas la pitié, c'est l'instinct de soi, la conservation de soi. Alors, il faut lire de très près Rousseau pour voir comment il n'a pas posé une contradiction grossière. L'instinct de pitié est bien dans l'état naturel. Donc c'est bien un instinct. Mais il est à l'état de puissance, comme dirait Aristote. En termes modernes, on avait terminé là-dessus la dernière fois, c'est un potentiel, une potentialité. D'ailleurs, potentialité et puissance, c'est le même mot en latin. Le problème, c'est que ce qui est potentiel ne peut rester qu'à l'état virtuel, comme on dit aujourd'hui. Ne peut être qu'un possible, mais une possibilité qui ne se réalise pas, ça n'existe pas. Pour reprendre les catégories d'Aristote qui nous aident, il faut pouvoir passer de la puissance à l'acte. Et c'est tout l'enjeu que traite Rousseau. L'axe, c'est ce qui se réalise. Et c'est là qu'intervient chez Rousseau cette nécessité de l'instituteur, de l'instruction, de l'éducation, qui va faire l'objet de l'Émile. Mais il faut bien que ça existe dans l'état de nature. Donc, pour Rousseau, de façon non contradictoire, la pitié, c'est à la fois naturelle, même biologique, corporelle, et intellectuelle ou culturelle. Au sens où il faut aborder cela de façon dynamique et pas statique, c'est un processus. Ça se construit à partir, on pourrait dire comme ça, d'une prédisposition. Pour prendre une comparaison, c'est comme la différence entre un don et l'acte de création. Par exemple, on peut avoir des dons, des prédispositions naturel pour la musique. Mais ça ne peut rester que cela. Si un environnement n'a pas permis de cultiver, développer ce don premier existant chez tel individu ne restera qu'une virtualité, une possibilité, mais cet individu ne sera pas devenu artiste. Voilà, c'est une analogie qu'on peut faire pour mieux se représenter concrètement ce qui est en jeu par rapport à la pitié. Donc, aucune contradiction entre le fait que la pitié soit à la fois naturelle et intellectuelle, rationnelle, culturelle. Alors, précisons le processus qui permet de passer de la puissance à l'acte. L'amour de soi ne fait que cultiver son propre intérêt, ce qui fait que ça génère inévitablement un état d'indifférence, un sentiment d'indifférence à ce qui n'est pas soi. Ce qui fait que, par exemple, si pour survivre, faut écraser l'autre, bouffer l'autre, tuer l'autre, ça ne pose pas de problème parce que ça reste indifférent. La pitié va devenir efficiente à partir du moment où, dans la conscience de l'individu humain, s'opère le mouvement de sortie de soi. Il faut sortir de soi. C'est un transport, la pitié. Le mot qui dit ça, ce transport hors de soi, c'est le mot émotion, émouvoir. C'est ex en latin movere, M-O-V-E-R-E. Ex movere, ça veut dire quoi? C'est se sortir, se mouvoir hors de, sous-entendu soi. Donc, il y a de l'affect, il y a de l'émotion, du sensible dans ce mouvement nécessaire pour qu'il y ait pitié. Alors, transport hors de soi, hors de sa sphère autistique. Et c'est bien le problème que l'individu contemporain, on pourrait lui mettre entre guillemets cet attribut qu'il est autiste, bien sûr. Ce mouvement va vers où? Mouvement par lequel je sors de soi pour aller dans l'autre. Pour aller dans l'autre. Ce qui n'est pas sans poser de problème. C'est ce que les sciences humaines modernes ont pu résumer dans un mot, qui est un mot grec et plus latin, qui veut dire ça, c'est empathie. D'ailleurs, pour ceux qui y étaient, j'ai été frappé par le fait qu'au banquet de cet été, autour de nous, plusieurs intervenants ont été conduits à parler d'empathie. C'est la mode au sens où on se rend compte qu'on en manque, on est dans l'autisme, et que ça risque de pas être vivable. Donc effectivement, ce mot-là revient très largement au goût du jour. Et empathie, c'est proche de l'émotion, ce côté grec. Empathie, c'est en, qui veut dire dans en grec, à l'intérieur de, dans, en, en. Et pathie, ça vient de pathein, qui veut dire souffrir. Alors, souffrir au sens de l'affect, de la sensibilité, pas forcément au sens de la douleur ou de la souffrance calvaire. Souffrir, c'est éprouver, éprouver à l'intérieur de ce qui n'est pas soi, éprouver à l'intérieur de l'autre. Autrement dit, ce mouvement émotionnel, affectif, qu'évoque aussi Aristote. Pour Aristote, la communauté suppose et l'amitié suppose qu'il y ait de l'affect, une dimension sensible. Donc, ce transport hors de soi pour éprouver à l'intérieur de l'autre, l'empathie, au fond, c'est un mouvement d'identification. C'est le mouvement par lequel on découvre du même dans l'autre. Ou pour le dire encore autrement, mais le terme est ambigu et me gêne, mais de découvrir que l'autre est mon semblable. Semblable voulant dire précisément qui ressemble, qui est le même. Alors, le problème que je pointe tout de suite et que ne pensera au fond que Lévinas, c'est pour ça que je souhaite terminer sur Lévinas, tout cela paraît parfait, résoudre tous les problèmes, mais le problème qui reste, c'est que ce mouvement dans lequel je me mets dans l'autre et éprouve la même chose que l'autre, consiste à se mettre à la place de l'autre. C'est pouvoir occuper la place de l'autre. À travers quelle faculté, quel est le vecteur qui permet ce mouvement de sortie de soi et de prendre la place de l'autre? C'est ce que Rousseau appelle l'imagination. C'est par l'imagination que ça se fait. C'est un effort d'imagination. Au sens où la réalité de départ, c'est qu'on est séparé de l'autre. Il y a l'un et l'autre, moi et l'autre. Et c'est par l'imagination qu'on peut occuper la place de l'autre. Alors, cette imagination va être cultivée, c'est une faculté qui va être cultivée précisément par la raison. L'imagination a à voir avec la rationalité pour Rousseau. Et d'où le fait qu'elle puisse être cultivée par l'éducation. L'expérience réfléchie. Alors, je vous dis tout de suite, donc, l'impasse ou le problème sur lequel on tombe, on bute, on rebondit, c'est que se mettre à la place de l'autre est possiblement éjecter l'autre de sa propre place. C'est une formulation triviale, ça. C'est vouloir faire le bonheur de l'autre à sa place. Chacun n'est pas épargné par la tentation de penser à la place de l'autre, de penser son bonheur à sa place, etc. On voit trop combien c'est la tentation de parents par rapport à des enfants, par exemple. Cette tentation, c'est pas une possibilité virtuelle, mais que ce dérapage est permanent. Et alors, c'est à partir de là que l'État Léviathan peut devenir aussi un État totalitaire. Les camps de rééducation participent de ce processus. C'est-à-dire que c'est en ce sens-là qu'il faut reconnaître la grande différence entre l'hitlérisme, le nazisme et le stalinisme. C'est-à-dire que c'est pas le même mouvement. C'est-à-dire qu'un camp de concentration, c'est vraiment pour éliminer l'autre. Un camp de rééducation qui peut avoir le même effet, c'est pas le problème de l'effet du nombre de morts qui est en jeu. C'est que le processus n'est pas le même. Un camp de rééducation participe du fait qu'on considère que l'autre ne poursuit pas son bien, est aveugle, ne voit pas quel est son bien, qui est lié au bien commun. Donc il faut le rééduquer. C'est pour cela que la procédure des procès staliniens a à voir avec la procédure de l'inquisition, qui est ce que Foucault a appelé l'aveu. C'est-à-dire que l'idéal d'un procès stalinien, comme l'idéal de l'inquisiteur, ce n'est pas de matraquer l'individu jusqu'à le tuer, de le torturer, c'est qu'il avoue. Alors, avouer, c'est quoi? C'est accéder à sa propre vérité. C'est accéder à sa propre vérité, c'est l'aveu, c'est prendre conscience que on s'est trompé, qu'on pensait contre soi, qu'on agissait pour son mal et pas pour son bien personnel. C'est ça l'idéal de l'aveu dans l'inquisition, comme l'idéal du procès stalinien, mais qui est présent même donc dans le cadre de la famille, dans le cadre d'un père par rapport à son fils, dans le cadre de toute situation, même possiblement dans le cadre de l'affectivité entre deux individus. Je parle même pas de l'amour, mais aussi l'amour entre deux individus, ou même l'amitié, où on peut avoir tendance à penser ce qui est bien pour l'autre. Pour le dire en termes très simples, en voulant faire le bonheur de l'autre qui ne le veut pas forcément, on peut exercer une oppression sur l'autre. C'est la conséquence. C'est que comme l'autre, dans sa réalité, résiste à l'image qu'on en donne, et c'est bien tout le problème des parents qui se heurtent au fait que leurs enfants ne sont pas conformes à l'image qu'ils en sont faits. Et comment négocier le décalage entre la réalité de l'enfant et l'image qu'on s'en était faite? C'est bien le même problème. Dans l'Émile, il est fréquemment question de la pitié, justement. Il y a beaucoup d'occurrences du mot pitié. On peut résumer sa conception de la pitié telle qu'il la déploie à différents endroits de l'Émile de la façon suivante, à travers les maximes. On pourrait, en termes contemporains, appeler ça non pas maxime, ça fait un peu désuet et très moral. On peut appeler ça, à la manière de Jean-Claude Milner, des thèses. Donc, il y a trois thèses qui sont déployées sur la pitié, qui d'ailleurs recouvrent ce qu'on a vu avant et qui est présent dans les autres livres qu'on avait abordés, donc discours sur l'origine des langues, discours sur l'inégalité, etc. La thèse numéro un, c'est que le transport hors de soi, l'émotion, ne peut se produire que dans la pleine identification avec autrui. C'est un processus d'identification. Identification, pour le dire autrement, c'est ressentir l'autre comme le même que soi. Ce que veut dire le mot identification. Je rappelle qu'identification en latin, ça veut dire fabriquer, faire, fication, idens, le même être, idem ens, le même être, le même étant, fabriquer le même étant. C'est fabriquer l'autre comme le même que soi, identification. Donc, la thèse numéro un, cette émotion se transporte hors de soi vers l'autre, dans l'autre, qui ne se produit que dans la pleine identification qui passe par l'imagination, ne peut s'effectuer pleinement que vis-à-vis d'être souffrant. Ce que dit Rousseau, c'est que si en face de soi, on a un être qui nous apparaît comme joyeux, plein de bonheur, riche, beau, plein de facultés, l'identification n'est pas possible parce que ça va développer plutôt la jalousie, donc la guerre. Et rappelez-vous que c'est ce que développe Hobbes d'ailleurs. Ça va développer la jalousie, l'envie, la guerre. Par contre, face à l'autre souffrant, confronté au mal, l'identification et l'émotion et l'empathie, donc la pitié, est possible. Pourquoi ? Ça suppose une condition complémentaire qui sera la thèse numéro 2, mais j'ajoute ceci avant. Dans cette thèse numéro 1 est contenue l'idée qu'en fait on va retrouver l'Augustin d'Hippone du début du siècle. C'est qu'au fond, il n'est de communauté humaine que de communauté de malheur. C'est-à-dire que ce qui est partageable, c'est le malheur. Mais en même temps, Rousseau, qui est toujours extrêmement subtil, rusé et complexe, et s'éloignera aussi d'Augustin et de ce principe du malheur comme bien commun, parce que il va souvent développer l'idée que la politique, l'institution, le contrat, c'est une politique du bonheur. Et il va largement inspirer la Révolution française, qui est le moment où s'invente l'idée qui est extrêmement récente dans l'histoire de l'Occident, l'idée du bonheur. La notion de bonheur n'existait pas avant. C'était pas une visée humaine. C'est seulement à partir de la Révolution française, et donc des Lumières, et donc de Rousseau, qu'il y a une espèce de revendication du bonheur. Donc vous voyez, en même temps, de cette thèse numéro 1 se déduit le fait qu'il n'est de communauté possible que de malheur, mais en même temps, Rousseau va par ailleurs déployer sans arrêt l'idée d'une politique du bonheur sur Terre. C'est notamment le passage d'une société théocentrée à une société anthropocentrée, fondamentalement. C'est que dans la société théocentrée, le bonheur n'est pas une perspective terrestre. Le bonheur, ça sera le royaume des cieux. Mais dans une société anthropocentré va émerger la conscience et la revendication que le bonheur, ça doit être ici et maintenant, pour le dire très rapidement. Thèse numéro 2. Qu'est-ce qui fait qu'il faut l'autre souffrant pour que la pitié s'épuise? Parce que, contrairement aux épicuriens, on ne se sent pas épargné par la souffrance de l'autre, par le mal dont souffre l'autre. C'est-à-dire que on pense que ça peut nous arriver à nous. Si on pensait que ça ne pouvait pas nous arriver, on n'éprouverait pas cette pitié par rapport à la souffrance de l'autre. C'est parce qu'on pense que ça nous arrive. Et je sais pas si vous avez remarqué dans les reportages sur les inondations, etc., où tous les gens s'apitoient sur ce qui arrive l'autre. C'est, tout le monde dit, ça peut m'arriver. Si on ne pense pas ça, peut pas se développer des Rousseau. D'où le fait que Rousseau, dans l'Émile, en déduit un principe d'éducation. Il faut que le jeune, que l'Émile, le jeune garçon, le jeune enfant, adolescent, fasse des expériences de vie qui l'amène à considérer les pauvres, les infirmes, les malheureux, non pas comme des étrangers complètement à lui-même, mais comme étant ce qu'il peut vivre lui aussi. L'idée que, par exemple, il pourrait devenir pauvre. Et Rousseau, quelque part, dit d'ailleurs, le problème des riches du temps de Rousseau, où on est riche de naissance, etc., c'est qu'ils ne peuvent pas s'apitoyer sur les pauvres parce que ils considèrent qu'ils ne deviendront jamais pauvres. Ce qui, du temps de Rousseau, était juste, était réel. La société était figée en catégories, en strates, en ordre qui fait que les riches restaient riches. Et les pauvres restaient pauvres généralement, ou ce qu'on trouve dans les sociétés de caste. Donc, l'éducation consiste à faire prendre conscience à l'adolescent que la condition humaine est la même pour tous et que la condition de pauvreté, de malheur, de souffrance est partagée, est partageable. Et la thèse numéro 3 correspond à la maxime numéro 3, c'est que dans ce processus de pitié, d'émotion vers l'autre, il y va de la subjectivité, c'est subjectif. Donc ce qui nous émeut, ce qui nous fait développer la pitié dans le malheur de l'autre, ce n'est pas une quantité de malheur. C'est-à-dire que la pitié n'est pas d'autant plus forte que le malheur de l'autre est d'autant plus énorme. Parce que c'est complètement subjectif. C'est le sentiment que l'on prête, c'est pas qu'on mesure la quantité de mal qui frappe l'autre, c'est le sentiment qu'on prête à ceux qui le souffrent, cela, dit Rousseau. Ce qui fait que la pitié peut s'épancher, se développer, même si objectivement l'autre est dans une situation de souffrance ou de malheur qu'on pourrait évaluer comme vraiment minuscule.